Pendant le premier confinement, le foot m'a beaucoup, beaucoup manqué. Le retour régulier des matchs, l'attente des grandes compétitions, un euro a été annulé, c'est pas rien. Même les évolutions des différents championnats nationaux, tout ça m'a manqué. Et j'ai compris à quel point ça rythmait ma vie. Alors, quand le déconfinement est arrivé, que les compétitions ont repris, j'ai cru que tout allait redevenir comme avant.
Le code.
Sauf que non. Et le reconfinement l'a confirmé d'ailleurs. Certes, on peut regarder des matchs de foot à la télé, les championnats ont repris avec leur lot d'histoires, de chiffres, de gestes, etc. Mais devant ces tribunes vides, un truc s'est cassé en moi. Le foot ne m'intéresse plus. Enfin, en tout cas, pas comme ça.
De la porte.
J'ai beaucoup réfléchi à ce qui permettait d'expliquer ça. Et une hypothèse m'est venue. Avec l'absence de public dans les stades, j'ai l'impression de regarder un jeu vidéo de foot. Un jeu qui serait joué par quelqu'un d'autre que moi. Le foot, c'est déréalisé. Mais je me demande si le confinement n'est pas en fait le point d'orgue d'un processus qui a commencé il y a plus longtemps. Non seulement avec la très grande place donnée aux jeux vidéo dans la culture footballistique, mais aussi avec la technologisation du foot lui-même. L'utilisation des données, l'arbitrage vidéo, le rôle des images de télé. Derrière tout ça, en fait, je crois qu'il y a une crainte. Est-ce que le foot est à ce point travaillé par le numérique et les technos qu'il y perd un peu de son âme ?
Thank you. Enjoy the game.
Le code a changé.
Je veux tirer ça au clair. Une personne peut m'aider à y répondre. Enfin, bon, sans doute plusieurs personnes, mais lui, en tout cas, j'en suis certain. C'est Thibaut Leplat. Il rassemble des qualités qui sont rarement réunies dans une seule personne. Bon, d'abord, il est fan de foot et très très grand connaisseur. Ensuite, il est philosophe, il enseigne à Nice. Et puis, il a travaillé sur le sport académiquement, mais il a aussi écrit plusieurs livres qui sont vraiment intéressants. Et il intervient aussi régulièrement dans des clubs de Ligue 1, donc d'une certaine manière, il connaît le foot de l'intérieur. Et puis, chose intrigante, il est aussi consultant pour eSport, qui est l'éditeur du fameux jeu de foot FIFA. Bon, bref, Thibaut Leplat, il est aux confins de tout ce qui m'intéresse pour comprendre ce qui m'arrive avec le foot, et puis aussi ce qui arrive au foot avec la techno, enfin, ça c'est mon hypothèse. Quand commence la discussion, j'en reviens à ma question de départ, donc, et je demande à Thibaut Leplat s'il peut m'expliquer pourquoi ce foot confiné, ce foot sans public, me donne l'impression que le spectacle de foot a été absorbé par le jeu vidéo.
Il y a deux mouvements, en fait. Il y a effectivement ce mouvement-là qui est un mouvement un peu à la Philippe Kadic. On a du mal à faire la distinction entre le réel, le virtuel. On ne sait pas bien si on est en train de regarder une simulation ou bien la réalité d'un match de football. Et on voit que sur la manière de filmer, sur les stades vides, sur l'isolement qu'on peut avoir face à ces matchs-là, l'absence de communion, tout cela fait qu'on a l'impression quasiment il ne manque plus qu'un joystick dans la main pour prendre le contrôle du match. Donc on a une espèce de folie un peu comme ça, de dystopique. Et en même temps, on a un phénomène inverse, qui est le phénomène des jeux vidéo eux-mêmes de plus en plus réalistes, qui eux se rapprochent de plus en plus aussi du terrain. Avec, je sais que par exemple la dernière édition de FIFA, t'as maintenant des speakers dans les stades. La manière de modéliser les joueurs est de plus en plus réaliste, tout en 3D. Quand tu joues avec Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo que t'as dans ta main. T'as le phénomène du football réel qui se ressemble de plus en plus au football virtuel, et le football virtuel qui essaye d'autant plus de rapprocher la réalité, le summum étant la question des champs de supporters.
Là, j'avoue que je ne vois pas très bien de quoi parle Thibaut avec les champs de supporters. Quand je pense à des champs de supporters, moi, tout de suite, je pense à deux trucs. Quand, par exemple, les supporters du stade Bollaert de Lens chantent « Les corons » de Pierre Bachelet. Voilà, ça, c'est très beau. Et puis évidemment, je pense à autre chose, je pense immanquablement au « You'll Never Walk Alone » chanté par les supporters de Liverpool. « Voilà. À chaque fois, tous ces gens dans un stade qui reprennent en chœur une chanson qu'ils connaissent par cœur, tous, du plus jeune au plus âgé, eh ben, ça me fout la chair de poule. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ces vidéos sur YouTube. Bref, donc, en quoi, il faut qu'il m'explique Thibaut, en quoi les chants de supporters sont-ils l'acmé de ce double mouvement dont il parle du virtuel au réel et réciproquement?
Bah, les chants de supporters dans le jeu FIFA sont des chants réels qui sont enregistrés et qui sont mis dans le jeu vidéo. Bon, et avec le confinement, les stades étant vides, notamment en Espagne, ce qui a été fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ont été pris les chants enregistrés par FIFA, on a mis dans les retransmissions des faux vrais chants, en réalité. Et ce qui fait que t'as une sorte de dialectique, en fait, du réel et du virtuel, où ça finit par se mélanger complètement et donne cette sensation, je pense que tu as eu, c'est celle-là, c'est que l'intuition qu'on est dans un mouvement qui nous dépasse un peu, et dans lequel on a du mal, en fait, à faire une distinction claire entre ce qui est réel et ce qui est virtuel.
Il a raison, Thibaut. Je suis assez d'accord avec sa théorie de l'indistinction entre foot réel et jeu vidéo. D'ailleurs, le fameux « You'll never walk alone », quand on l'écoute dans l'édition 2020 de FIFA, ben ça donne ça. Il faut avouer que ça fait illusion. Et d'ailleurs, cette confusion, quand on y pense, ben elle date pas d'hier. Ça fait un bout de temps qu'on appelle « but FIFA », des buts qui sont marqués dans le foot réel, hein, mais qui ressemblent à des buts qu'on marque dans les jeux vidéo. Et puis, quand Antoine Griezmann s'est mis à célébrer ses propres buts avec les gestes d'un personnage de Fortnite, le jeu vidéo, bah, c'était pas mal non plus comme confusion. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, les joueurs de foot confessent jouer sur console avec leurs propres avatars, bah là, on atteint des niveaux d'intrication qui sont philosophiquement assez intéressants. Hein. Sans compter que, de plus en plus souvent, il m'arrive, quand je regarde des trucs de foot un peu au hasard sur YouTube, de mettre quelques secondes avant de comprendre que la vidéo que je suis en train de regarder est en fait une séquence de jeux vidéo qui a été mise en ligne par un joueur.
C'est un mouvement fond avec un vrai phénomène de dialogue entre les deux sphères, mais je crois que la confusion, elle est accentuée par le fait qu'il y ait une absence de distinction claire en ce moment. Je crois que le phénomène de dialogue entre les deux ne fonctionne que s'il y a une frontière claire. Et je crois que le public servait vraiment de frontière. Sert à nous rappeler que ça, c'est du réel. Il y a vraiment des gens dans le stade.
Je crois qu'il a tout à fait raison, Thibaut. Le public, c'est ce qui distingue le foot réel du jeu vidéo. Et le fait qu'il n'y ait pas de public en ce moment, eh ben, c'est sans doute ça qui donne l'impression que le foot n'est plus réel. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il faudrait interroger des gens du design numérique, des informaticiens là-dessus, les foules sont toujours un peu mal faites dans les jeux vidéo. Bon, je suis sûr qu'il doit y avoir une raison technique à ça. Bon, mais du coup, je me pose une question. Est-ce qu'il y a une concurrence entre le jeu vidéo et le foot? Et si concurrence il y a, est-ce que le jeu vidéo a des avantages sur le foot réel? Alors, quand je lui pose la question, Thibaut tout de suite me parle d'un avantage tout simple. Le jeu vidéo permet de condenser le temps.
Les matchs durent 10 minutes. Par contre, ils donnent l'illusion de 45 minutes. C'est le chronomètre, il est accéléré. Le jeu vidéo propose un condensé émotionnel du football réel. C'est le problème auquel est confronté le football réel maintenant, notamment dans la question d'exploitation des droits audiovisuels.
C'est-à-dire
maintenant, en fait, en NBA notamment, des lots pour les chaînes de télévision ou les opérateurs internet où tu peux acheter juste le dernier carton. Et ce qui se propose maintenant avec le football, c'est que c'est la dernière frontière un peu. On avait découpé les journées de championnat, on a découpé les championnats, on peut acheter match par match. Mais maintenant, ce qui est en train de se proposer, c'est en train de se préparer, c'est uniquement certains moments du match. Les derniers quarts d'heure, uniquement la deuxième mi-temps. Parce que les opérateurs sont confrontés à un double problème, c'est-à-dire une concurrence énorme. Donc il faut qu'il y ait des lots un peu pour tout le monde. Et en même temps, une baisse d'attention du public. 90 minutes, c'est devenu très long. Surtout quand tu joues beaucoup aux jeux vidéo.
Ouais.
Tu préfères avoir un condensé sur 10 minutes de toutes les émotions que tu peux avoir dans un match de football, mais uniquement sur 10 minutes que tu peux répéter
c'est dingue,
avec
ça.
Des joueurs réels.
Alors ça, je ne savais pas du tout. Bon, le morcellement des lots de diffusion, ça, tout amateur de foot en est victime. Il y a un match sur Canal, un autre sur beIN Sport, la Ligue des Champions est sur SFR, etc. Il faut tout payer, bon. Mais le morcellement du match lui-même, je savais pas que ça pourrait arriver un jour. Bon, c'est un effet que j'aurais jamais imaginé de cette économie de l'attention, hein, dont on parle tant, et de la rétroaction de l'influence du jeu vidéo sur le foot réel. L'unité dramatique du foot rompue pour ressembler à celle du jeu vidéo. Alors ça, c'est absolument passionnant. Mais ça me pose une question. On le sait, hein, une des particularités du foot, c'est précisément sa temporalité. Un match dure longtemps, 90 minutes. Et les événements, ils sont rares. Bon, quand on voit 3 buts, on est content. C'est d'ailleurs ce que reprochent au soccer, hein, notre foot, les Américains qui préfèrent largement le basket ou leur foot, où les événements, essentiellement l'évolution du score, hein, sont beaucoup plus nombreux. Et c'est ce qui rend le spectacle du foot, de notre foot, aussi singulier. Du coup, si on s'ennuie plus, est-ce que c'est pas là la disparition d'une des propriétés du spectacle footballistique ?
Traditionnellement, effectivement, pour nos générations, c'est attendre avant de regarder un match. On fait partie des générations où il y avait encore assez peu de matchs à la télé, donc on regardait le peu qu'il y avait, et du coup on s'en souvenait très bien, on avait le temps de le préparer avant, on avait le temps de s'en souvenir un peu après. Maintenant, on est dans une civilisation de l'intensité, où la seule chose qui permet d'imprimer un peu dans la mémoire, c'est l'intensité du sentiment. Il n'y a plus véritablement de place pour l'attente, ni la lenteur. Tout simplement parce qu'il y a une telle surproduction, qui fait que le consommateur, l'amateur, est confronté à des choix, à des dilemmes, qu'il faut bien qu'ils fassent. Et entre s'ennuyer et regarder un beau match ou jouer à la console, bah, il y en a assez peu qui vont choisir de s'ennuyer volontairement. On s'ennuyait un peu involontairement. Il faut pas.
Ouais, c'est vrai. Ah oui. On cherchait pas l'ennui, mais enfin, de fait, ça faisait partie de l'expérience, quoi.
Je pense qu'il y a une forme de désenchantement du football, avec, le surinvestissement technique dont était objet le football à l'heure actuelle. Mais en même temps, il faut pas non plus faire preuve d'un humaniste facile, en se disant que on est purement dans un âge technique froid. Je crois pas. Je crois qu'à l'intérieur de la technique, quand on regarde précisément comment sont fabriqués les matchs, comment sont fabriqués les jeux vidéo, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'intelligence humaine à l'intérieur et encore beaucoup de créativité.
Tiens, en parlant de comment se fabriquent les jeux vidéo, Thibaut m'a dit qu'il travaillait pour EA Sports, l'entreprise américaine de jeux vidéo qui est spécialisée dans le jeu de sport, et qui édite donc FIFA, le leader des jeux de foot. J'aimerais bien qu'il me dise, Thibaut, ce qu'il y fait, hein, pour autant qu'il puisse me raconter, parce que bon, tout ça, j'imagine, ça relève du secret industriel.
Bah écoute, je suis consultant pour EA Sports, je travaille sur les éditions du jeu FIFA depuis quelques temps, sur la question des commentaires. Je suis consultant extérieur, où j'apporte ma patte pour essayer précisément de rapprocher le plus possible les commentaires de la réalité. Que ça sente le foot. Ça sent le stade, hein. Je veux dire que presque ça sent la merguez, quoi. Il faut absolument qu'on se rapproche de plus en plus du football réel.
Comment tu fais pour qu'un commentaire sente la merguez?
C'est très difficile parce que t'as beaucoup de contraintes techniques. Mais t'essayes de plus en plus que ton commentaire soit de moins en moins standardisé. Ce qui est une aporie à nouveau parce qu'effectivement, quand t'es dans un jeu vidéo, forcément, c'est généré par une intelligence artificielle. Mais il faut que ça sente de plus en plus le foot et que t'essayes à travers des ruses de langage, à travers des techniques de langage. C'est pour ça que moi, je travaille pour eux. Je suis auteur, d'abord, pour essayer de donner un peu de vivant à ce qui peut être, au départ, uniquement des hologrammes ou des dispositifs techniques.
Un des trucs extraordinaires dans Internet, c'est qu'on trouve tout. Alors, comme je cherchais à comprendre ce que EA Sports voulait faire en rapprochant, comme le dit Thibaut, le plus possible ses commentaires de ce qu'on peut entendre à la télé, eh ben, je suis allé sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo intitulée « FIFA 20, le meilleur du pire des commentaires d'Hervé Matou et de Pierre Ménès ». Alors, Hervé Matou et Pierre Ménès, ce sont deux journalistes phares de Canal qui prêtent donc leur voix aux jeux vidéo pour les commentaires. Bon ben, et donc, dans le jeu vidéo, ça donne des trucs comme ça.
Et vu comme c'est parti, on se demande ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Oh, ça fait quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent, tout ça.
Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Pierre, ça fait plaisir d'être à vos côtés pour suivre ce match.
Mais que du plaisir, Hervé, que du plaisir.
Voilà, youpi, youpi.
Bon, c'est pas mal, hein. À la fois assez proche de la réalité, et en même temps, il y a un truc qui cloche. Quelque chose d'étrange dans leur intonation et dans le décalage avec ce qu'on voit sur l'écran. Un peu comme avec les androïdes qu'on voit dans les films d'anticipation. Bon, ils sont hyper ressemblants, ces androïdes, mais il y a toujours un tout petit truc qui déconne et qui, du coup, inquiète. Je comprends donc pourquoi ils ont besoin d'un commentaire de gens comme Thibaut pour essayer de coller au réel. Mais bon, sortons un peu du jeu vidéo parce que tout à l'heure, Thibaut a parlé très rapidement de surinvestissement technique dans le foot réel hein, cette fois-ci. Donc j'aimerais bien qu'il m'explique ce qu'il entend par là.
C'est un mouvement assez paradoxal où on mesure absolument tout dans le football, même la catégorie inférieure. Hein, je suis dans les centres de formation, par exemple de l'Olympique Lyonnais. J'y étais il y a quelques temps. Les gamins en U16, ils sont tous monitorés avec un GPS autour du cou. On va mesurer leur performance technique. Mais quand tu discutes précisément avec les éducateurs et avec les gens qui font le football, tu te rends compte que ces indicateurs-là sont finalement assez peu utilisés. On mesure, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure. Alors comme on ne sait pas trop ce qu'on mesure, on mesure tout. Et en fait, ce qui est paradoxal avec cette technique-là, avec ce surinvestissement technique, c'est que il ne fait qu'approfondir un peu le mystère du football.
Hein? Pourquoi ça? C'est intriguant d'imaginer que posséder des données n'éclaire pas le mystère du foot, mais au contraire, l'approfondit.
Ben, on se rend compte que le football est beaucoup plus compliqué qu'une simple mise en tranche, quoi. Qu'on n'en percevra pas le mystère en mesurant les kilomètres parcourus, en mesurant le nombre de passes réussies ou pas. Quelque chose d'immatériel qui se passe dans un groupe, dans une équipe, dans un stade. L'exemple de Maradona est très parlant là-dessus. C'est que on peut mesurer les kilomètres parcourus, les passes réussies de Maradona. Ça ne dira rien de ce que c'est que le sens de ce joueur-là et de ce personnage-là.
Ok, l'argument Maradona, il est imparable. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Thibaut, c'est qu'il y aurait donc comme un problème de méthodologie, un problème d'ordre quasi scientifique, quoi, au sens de la méthode scientifique. On peut avoir tous les outils de mesure les plus perfectionnés, si on ne sait pas quoi mesurer, eh ben ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, Thibaut dit que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'aurais tendance à croire en la performativité de ce genre de processus. Bon, je m'explique. Prenons le cas de la distance parcourue par les joueurs pendant un match. Bon, depuis quelques saisons, un système qu'on appelle EPTS, pour Electronic Performance and Tracking System, système électronique de performance et de suivi. Donc, EPTS permet de mesurer la distance parcourue par chaque joueur, et même d'ailleurs les vitesses de course des joueurs. Bon. Alors, peut-être que la distance parcourue par un joueur ou par une équipe pendant un match ne dit rien de la manière dont elle a joué. D'accord. Mais si on décide que c'est un critère pour, par exemple, choisir un joueur plutôt qu'un autre dans l'effectif, ou alors établir un modèle de jeu, bon, bah du coup, la distance parcourue devient importante, elle existe vraiment, c'est vraiment un critère. Et je repense à ce débriefing du premier match de l'équipe de France, de foot évidemment, hein, pendant la Coupe du Monde 2018. La veille, la France avait péniblement battu 2-1 l'Australie, qui est vraiment une équipe très 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 moyenne, et le lendemain, Didier Deschamps, l'entraîneur donc, avait passé un savon à ses joueurs en faisant justement référence à ce paramètre-là.
Sur les statistiques, distance totale parcourue par l'Australie, un peu plus de 111 km. Pour nous, 102. C'est comme s'ils avaient un joueur en plus. Pratiquement. Eux, 5 joueurs qui ont parcouru plus de 10 km dans le match. Nous, un seul. Pas une surprise, Engie. Ajoutez à ça les sprints de 15 à 20 km/h. Ce qu'on appelle sprint à haute intensité. Ils en ont fait le double, ils ont parcouru le double de distance. Chez nous, Kylian, c'est celui qui en a fait le moins. 3%. Dans la vitesse, c'est ta qualité.
De la porte.
Bon, moi quand j'entends ça, j'ai du mal à croire que le fait d'avoir accès à ces données ne change pas quelque chose au jeu. Alors, je fais la remarque à Thibaut Leplat.
Ça permet d'asseoir un pouvoir politique, en réalité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la statistique et la data, elle permet de fonder le commentaire sportif en donnant des faits, ce qu'on peut appeler des faits, à l'entraîneur d'appuyer une décision. Je t'avais bien dit que tu ne courais pas assez, je t'avais bien dit que, donc la preuve, le chiffre. Ou alors un président de prendre le nombre de victoires d'un d'un entraîneur pour ensuite asseoir une décision qui en réalité était déjà prise. D'accord. Qui était j'ai décidé de me défaire de toi. La technique aide pas du tout à la délibération. La délibération, elle est déjà faite avant en réalité. Parce que le football, c'est un monde de passion, c'est pas un monde de raison.
Alors là, c'est très intéressant ce que dit Thibaut. Et le fait qu'il parle de pouvoir politique, du pouvoir politique que donne la statistique. On le sait bien, hein, le pouvoir politique moderne, le nôtre, celui dans lequel on vit, est né avec la statistique. Avec la croyance très forte qu'on pouvait évaluer par les chiffres la nécessité ou la réussite des politiques publiques. D'ailleurs, les hommes et les femmes politiques, ils font toujours ça. Le bilan d'une politique, ce sont des chiffres. Derrière, hein, il y a une tendance qui est très ancienne, mais qui s'est encore accrue et de manière très spectaculaire avec le numérique, c'est la croyance dans le chiffre pour tout évaluer, jusqu'à l'individu lui-même. Alors beaucoup de gens ont travaillé là-dessus et sur les travers que ça produit. Et c'est drôle d'ailleurs que le foot retrouve à sa manière ce très vieil usage de la statistique.
Le code a changé.
Il y a dans le foot un autre phénomène passionnant. Un jeu qui s'appelle Football Manager donne la possibilité d'entraîner une équipe. Non seulement de l'entraîner, mais d'acheter des joueurs, de les échanger, de les disposer sur le terrain, etc. Mais pour rester au plus près du réel, encore une fois, hein, ces joueurs sont de vrais joueurs. Et donc, Football Manager possède une base de données hallucinante de joueurs du monde entier. Depuis les plus hautes divisions jusqu'aux divisions les plus basses, avec une description au plus près de leurs caractéristiques réelles. Bon, ce qui fait que les données de Football Manager sont parfois utilisées par des clubs quand ils veulent recruter. Disons que je suis un club de foot, je cherche un arrière-droit de moins de 23 ans pour pouvoir le revendre ensuite. Je veux qu'il soit droitier pour le faire jouer à droite, je veux qu'il soit grand pour être bon de la tête, je veux qu'il soit rapide parce que je veux l'associer à un milieu de terrain qui monte un peu de vitesse, je veux qu'il centre bien, etc. Bon, eh ben, je peux entrer ces critères dans la base de données et ressortir avec une liste de noms. Alors, on sait que pas mal de clubs ont eu recours à ces bases de données, hein, cette manière de trouver des joueurs. Alors, je demande à Thibaut ce qu'il pense de cet usage qu'on peut faire de Football Manager et de l'incidence que cet usage peut avoir sur le foot.
C'est un formidable outil de recensement de joueurs. Ça a permis une démocratisation du scouting, on appelle en football, c'est-à-dire les gens qui recherchent les joueurs. N'importe qui dans son salon maintenant va connaître un joueur de Détroit Argentine et va en connaître les qualités.
Ouais.
La question est de savoir dans quelle mesure la technique a pas tendance à rigidifier, à vitrifier le vivant. Ça, c'est un vieux problème philosophique, mais effectivement de raisonner sur des joueurs uniquement à partir de caractéristiques techniques individuelles, qu'est-ce que ça nous dit sur le mystère du football ? C'est peut-être aussi ça la magie du football, c'est-à-dire que on aura beau avoir des critères techniques individuels très fins, très pointus, on ne saura toujours pas ce qui va se passer à l'instant T et au moment où il va arriver dans l'équipe en question et comment il va s'entendre avec un tel, avec un autre, et comment le football et le sport collectif et d'une manière générale les communautés humaines sont faites de tout un tas de choses immatérielles et inquantifiables qui se révèlent en fait pendant un match de football, quoi, et même pendant un entraînement, pas uniquement pendant un match.
Je sais pas pourquoi, ce que dit Thibaut, là, ça me rappelle une histoire qu'on raconte dans le monde du foot. En 1982, donc dans la fameuse équipe de France menée par Platini et qui a perdu en demi-finale contre l'Allemagne, il y avait un joueur formidable. Un type du nom de Jean-François Larios. C'était un joueur à la fois massif et technique, un profil qui était assez rare à l'époque. Je crois d'ailleurs que le Real de Madrid l'avait approché pour le faire venir, ce qui était quand même pas rien. Bon, eh ben, Larios, il n'a presque pas joué pendant cette Coupe du Monde, ce qui est assez étrange parce qu'il y avait sa place. Alors, ce qu'on raconte, hein, c'est ça l'histoire, c'est que Larios, qui jouait à Saint-Etienne, en club donc avec Platini, était aussi l'amant de sa femme. Et que, quand a commencé la Coupe du Monde, les autres joueurs de l'équipe de France sont allés voir Hidalgo, Michel Hidalgo, l'entraîneur, et lui ont dit, bah voilà, on est tous avec Michel, donc tu ne fais pas jouer Larios. Alors, je sais pas si l'histoire est vraie, mais elle dit un truc sur le foot. Elle dit que la manière dont se constitue une équipe est loin d'être du ressort de la stricte raison ou même de la stricte logique du jeu. Il y a nécessairement des choses qui échappent à la statistique. Alors, je ne sais pas si Thibaut pense à ce genre de choses quand il parle de vitrification du vivant par la technique, mais bon, moi j'y pense. Cela dit, j'aimerais savoir si malgré tout, il n'y a pas une pression pour avoir un abord aujourd'hui dans le foot plus rationnel et plus technique de ces associations étranges que sont les équipes de foot.
En réalité, ça date pas du numérique, ça.
Ah bon ?
Ça date d'une certaine conception du football. Les recruteurs, souvent traditionnellement, recrutaient à partir de caractéristiques techniques. Et ça a donné en football, en France, le problème des quotas. C'est-à-dire qu'à force de recruter des joueurs à partir de caractéristiques techniques individuelles, la puissance, la vitesse, la capacité de cardiovasculaire, etc., etc., on a essentialisé des gamins, en fait, qui a donné même des dérives qui étaient liées à l'affaire des quotas, ouais. Notamment le recrutement de gamins à partir de critères ethniques, parce qu'on considérait qu'une ethnie était plus rapide qu'une autre. Pour aller plus vite, on préférait dire « je vais recruter un grand noir » plutôt que de dire « je vais recruter quelqu'un de costaud ». Voilà. Ça mène à ces dérives-là et qui est complètement lié, en fait, à une certaine conception du vivant, à une certaine conception du football en particulier. En le découpant en tranches, en le réduisant à des caractéristiques techniques. Platini était un joueur un peu lent, qui avait d'ailleurs raté son recrutement au FC Metz parce qu'on trouvait qu'il n'avait pas assez de capacité respiratoire. Et des histoires comme ça, il y en a plein. N'Golo Kanté, on considérait qu'il était trop petit, il a été cherché en D2 française. Griezmann n'a pas intégré les centres de formation français parce qu'on trouvait qu'il était trop petit.
La liste de ces joueurs qui, dans l'histoire du foot, ont failli ne pas avoir de carrière parce qu'ils sortaient un peu du cadre, elle est infinie. Ok, donc le numérique n'a fait qu'accentuer une tendance qui existait déjà dans le foot. Et d'ailleurs, je trouve intéressant que Thibaut relie cette tendance à l'affaire des quotas. C'est quand Mediapart avait révélé qu'au sein de la Fédération Française de Foot, on cherchait à recruter des grands noirs à certains postes parce qu'on leur prêtait des qualités particulières. Bon. Je sais pas si ça a un lien, mais moi ça me rappelle le film Le Stratège, qui raconte l'histoire vraie d'un entraîneur de baseball américain qui prend en main une équipe très moyenne et surtout très peu dotée financièrement et qui la fait progresser en utilisant notamment les statistiques.
Votre objectif ne devrait pas être l'achat de joueurs, il devrait plutôt être l'achat de victoires. Voici 25 joueurs qui sont délaissés, comme des vilains petits canards. Dedans, il y a une équipe de championnat, une qui est dans notre budget.
Qui c'est le gosse ?
Le gosse, c'est le manager général adjoint. On va secouer le cocotier. Dis-le.
Vous voulez que je parle ?
Quand je te désigne du doigt, oui. C'est la nouvelle orientation des As d'Auckland.
On peut pas monter une équipe avec un ordinateur, Bill.
S'adapter ou s'éteindre. Si on gagne avec cette équipe, on aura révolutionné ce sport. Intérêt à ce que ça marche. C'est beau, je te charrie.
Et de fait, ce type a révolutionné le baseball. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, qui se déroule entre, disons, la fin des années 90 et le début des années 2000, elle est très liée à la démocratisation de l'informatique et de l'accès à l'information, permis notamment par Internet, et qui, bien utilisée, permettent de compenser, enfin, pendant un temps au moins, les moyens financiers. Mais bon, c'est le baseball, et le baseball, c'est un sport qui, par ses règles et par la configuration du jeu, est plus susceptible d'être réduit à la statistique que d'autres sports comme le foot.
Le code a changé sur France Inter.
Et en parlant de sport américain, ce que raconte Thibaut me rappelle un article que j'avais lu il y a quelques années dans le magazine américain Wired. C'était l'histoire d'un journaliste qui était devant sa télé et puis qui regardait un match de foot américain. Et à un moment du match, il voit un joueur qui fait un truc étrange. Alors, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était quelque chose qu'il avait peu vu faire jusqu'ici, sauf dans les jeux vidéo. Alors, curieux, le journaliste réussit à joindre le joueur et il lui pose la question. Et le joueur lui répond, ouais, en effet, je joue beaucoup au foot sur console, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ça sur le terrain. Et donc, ni une ni deux, le journaliste se lance dans une grande enquête sur l'influence du jeu vidéo dans le foot américain. Et il découvre que cette influence est manifeste. Notamment sur un poste en particulier, le poste de quarterback, c'est le joueur qui lance le ballon, c'est en général le joueur le plus stratège. Et les entraîneurs que le journaliste interviewe lui expliquent que les jeunes quarterbacks qui sortent aujourd'hui de l'université ont tellement joué aux jeux vidéo qu'ils sont dotés d'une culture tactique qu'il fallait à leurs aînés des années pour acquérir. Et que donc les quarterbacks d'aujourd'hui sont hyper bons parce qu'ils sont à la fois très forts physiquement, du fait de leur jeunesse, et très intelligents, très cultivés tactiquement, grâce aux jeux vidéo. Et donc, je voudrais savoir si on observe le même phénomène dans le foot. Est-ce que le fait que les joueurs professionnels soient souvent des gamers, et que donc ils jouent beaucoup de parties de jeux vidéo, et que les entraîneurs puissent coacher des centaines d'équipes dans Football Manager, est-ce que ça augmente la culture tactique du milieu du foot? Est-ce qu'on le voit?
Ouais, André Villas-Boas, l'entraîneur de Marseille, est réputé pour avoir gagné 3 fois la Ligue des Champions sur Football Manager. Ça a été d'ailleurs à une époque quasiment son seul CV. Et le directeur sportif de l'OM aussi, Longoria, était assez connu sur Football Manager. Oui, mais parce qu'on demande à ces gens d'avoir beaucoup d'informations à leur disposition. Donc ils ont beaucoup d'informations à disposition, mais ouais. Avoir beaucoup d'informations, c'est pas avoir de la culture. C'est comme la différence qu'il y a entre un disque dur et un cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'un disque dur est capable d'accumuler beaucoup d'informations, mais ne va pas forcément hiérarchiser, et surtout ne va pas avoir du recul. Le savoir, c'est pas de l'information. La culture, c'est pas de l'information. La culture, c'est d'avoir un certain regard porté sur l'information. Mmh. Donc, Villas-Boas est devenu un grand entraîneur, surtout parce qu'il est intelligent et parce qu'il est capable d'avoir du recul sur les informations qu'il a accumulées. C'est évidemment pas sur Football Manager qu'il a appris son métier. Évidemment, non.
Évidemment, j'ai cherché si Villas-Boas avait parlé de ce que lui avait appris Football Manager, et je suis tombé sur une interview qu'il avait donnée à RMC Sport il y a un peu plus d'un an. Et c'est drôle parce qu'il emploie presque mot pour mot les mêmes termes que Thibaut.
Qu'est-ce que ça te donne ? Ça te donne une connaissance des infos, des équipes par exemple, de l'effectif.
L'effectif de Burnley, l'effectif de Southampton, l'effectif de Portsmouth. Parce que à ce moment-là, tu n'avais pas l'internet, tu n'avais pas Wikipédia, tu n'avais pas Y-Scout, tu n'avais pas Pro-Scout, toutes ces choses, des outils que maintenant tu peux trouver et chercher des informations.
Voilà, donc ce sont des informations que ça lui apporte, et pas plus. Mais à la fin, il dit un autre truc intéressant, Villas-Boas.
Parce que quand j'entre dans le monde du foot, je l'ai fermé.
Une fois qu'il est intégré dans le milieu, qu'il est vraiment entraîneur de fait, qu'il est au contact des humains et de tous les autres paramètres, eh ben, il n'a donc plus besoin du jeu. Mais je me pose une autre question. Est-ce que cette tendance à la technicisation du foot a amené de nouvelles personnes dans les staffs des équipes? On sait, dans les staffs, il y a les kinés, les préparateurs physiques, etc. Et est-ce qu'on a vu apparaître des gens chargés de produire des données sur les joueurs, le jeu, les analyser, etc.?
Ouais, il y a deux mouvements. En fait, il y a des data analystes. Beaucoup de clubs recrutent des gens qui sont capables de traiter de la data. Et vous avez des entreprises comme Opta qui fournissent régulièrement aux clubs, mais aussi aux rédactions, un ensemble de données. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment ils travaillent. En fait, ils travaillent d'une manière assez révélatrice, en fait, de l'usage qu'on peut avoir de la donnée. C'est que, en réalité, vous avez un journaliste qui appelle et qui dit, écoute, on aimerait bien parler du rendement de Paul Pogba à Manchester United. Est-ce que tu peux me trouver des données qui vont montrer qu'on le voit pas trop et qu'il a perdu un peu son niveau? Et là, Opta, fait son petit truc, et il fournit un rapport en disant, il a effectivement donné assez peu de passes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas on regarde des data et ensuite on choisit, c'est au contraire, on a un angle et ensuite on essaie d'illustrer par des données. Voilà. Ça sert juste à asseoir un peu plus une hypothèse ou un préjugé.
C'est important ce que dit Thibaut là. Et ça me rappelle, c'est drôle, la critique qui est faite de l'usage des données et des algorithmes dans les décisions de justice ou dans la police prédictive. Après avoir pensé, ça concerne plus les États-Unis, hein, que ces outils aideraient énormément les juges à être plus justes, notamment dans la prévision de la récidive, ou les policiers à mieux cibler leurs interventions, eh ben, on s'est aperçu qu'ils avaient plutôt comme effet de renforcer les préjugés en ciblant encore plus certaines populations que d'autres. C'est assez étonnant qu'on obtienne, selon Thibaut, des résultats similaires dans le foot. Mais Thibaut, il parlait d'un double mouvement. J'ai remarqué qu'il adore les doubles mouvements. Bon, c'est normal, il est philosophe, les philosophes aiment la dialectique. Donc, Thibaut parlait d'un double mouvement. D'un côté, les data analystes qui entraient dans les staffs, mais aussi, si je comprends bien, d'autres gens.
Ils commencent à se recruter dans les clubs aussi, des gens qui pensent à partir de ces données-là et qui est capable de faire des tris, ce qu'on appelle les cellules de méthodologie.
Ah bon ?
Et maintenant, ils lisent de la philo, ils lisent des sciences humaines et ils essayent de créer des modèles de jeu en dehors des données. Et les données vont ensuite servir uniquement à mesurer l'efficacité de certains exercices, mais sur des choses très ponctuelles. En revanche, pour créer une culture de club, pour former des joueurs, pour essayer d'inventer des nouveaux modèles de jeu, de nouvelles manières de jouer au football, c'est en revanche là les sciences humaines qui sont convoquées.
Ah ouais ?
Et l'histoire du jeu. Ouais. Et vous avez une cellule de méthodologie qui a été créée il y a quelques années à Lyon. Lyon, je rappelle, c'est le premier centre de formation français, le troisième en Europe.
Alors là, je tombe des nues. J'ignorais complètement l'existence de ces cellules de méthodologie. Je trouve ça assez passionnant, hein, que la recrudescence des données donne lieu à un phénomène qu'on peut considérer comme son opposé exact, c'est-à-dire la nécessité du discours, des mots, de l'historicisation, etc. Alors j'ai l'impression qu'avec ces cellules de méthodologie, on entérine en fait la fin d'un rêve, bon, si tant est que ce rêve n'ait jamais existé d'ailleurs. Ce rêve serait été que les données massives travaillées par des algorithmes intelligents fassent émerger de nouveaux modèles de jeu qui révolutionnent le foot. Bon, si je comprends bien, ça n'aura pas lieu. Mais du coup, j'aimerais comprendre pourquoi cette révolution du foot par la donnée n'a pas eu lieu et peut-être n'aura jamais lieu.
La particularité du football, je t'apprends rien, c'est qu'il est joué avec les pieds. Et donc qu'on peut pas attraper le ballon. Donc il y a une part d'incertitude qui est énorme dans le football, beaucoup plus que dans le handball ou dans le basket. Et donc dans les combinaisons de jeu, il y a assez peu en réalité de schémas tactiques qui sont applicables, parce qu'en réalité la tactique elle est valable jusqu'au coup d'envoi. Quoi. Parce que jamais on joue en 4-3-3.
Ouais.
Jamais. Tous les entraîneurs te diront, c'est pour ça que maintenant il y a une espèce d'obsession tactique où il y a énormément de livres, énormément de parutions, de choses qui sont écrites sur la tactique. Mais la tactique, c'est une manière a posteriori de regarder un événement incertain. C'est une manière de classer ce qui a déjà eu lieu. Mais la tactique en elle-même, elle s'arrête à l'instant où le match commence. Alors oui, il y a des directions, mais le football est ainsi fait qu'il résiste encore à la dictature un peu technologique.
Le foot en lui-même, peut-être qu'il résiste, mais pas forcément ses acteurs. Et là, je pense à l'arbitrage vidéo qui a été mis en place récemment dans le foot, hein, il est plus ancien dans le rugby par exemple, et qui peut être vu comme une tentative de rationalisation technologique de la prise de décision arbitrale dont on sait depuis toujours qu'elle est problématique parce que l'arbitre ne peut pas tout voir, parce que ça va trop vite, etc. Donc j'aimerais savoir comment Thibaut l'analyse.
Il y a une illusion technique, c'est s'imaginer que parce qu'on va utiliser l'arbitrage vidéo, bon, on va résoudre le problème de l'interprétation. Évidemment non.
Illusion technique, je crois que l'expression est parfaite. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup en reviennent déjà. Parce que on s'aperçoit, comme l'explique très bien Thibaut, la vidéo, dans bien des cas, ne permet pas de supprimer l'interprétation comme on le pensait. On pensait que les arbitres n'auraient plus à interpréter parce que la vérité allait surgir de l'image. Or, dans bien des cas, c'est pas du tout ce qui se passe. Il faut encore que l'arbitre interprète, mais à un autre niveau de précision, ce qu'il y a dans l'image, ce qui ne rend pas les choses toujours plus faciles. À vrai dire, je trouve que c'est un cas absolument passionnant qui rappelle ce que disent toujours les scientifiques. Ils disent qu'une nouvelle connaissance apporte de nouvelles questions et que donc, en avançant, la science ne réduit pas l'inconnu, elle ne réduit pas ce qui reste à découvrir, mais elle augmente au contraire l'inconnu. Parfois, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec l'arbitrage vidéo. On croit que la technique réduit l'interprétation, et en fait, dans bien des cas, c'est l'inverse. Mais d'ailleurs, en pensant à ça, je me dis que les plus passionnants débats sur l'arbitrage vidéo que j'ai vu, entendu ou lu, c'est pas tellement dans la presse ou à la télé que je les ai vus ou entendus, mais c'est dans des blogs ou dans les réseaux sociaux. Ce qui me fait dire que peut-être quelque chose s'est passé dans la culture foot avec la démocratisation permise par Internet. Avant, on avait la télé, on avait la radio, les journaux, les magazines, les discussions entre copains ou au café. Mais sont apparus avec Internet d'autres lieux de savoir et de discussion. Des blogs hyper spécialisés, des comptes Facebook, Twitter, des podcasts, où interviennent non plus des journalistes répertoriés mais des fans, avec des résultats hyper intéressants. D'ailleurs, j'avais lu le dernier livre de Thibaut, mais c'est en l'entendant récemment intervenir dans un super podcast qui s'appelle « Sur la ligne » que j'ai eu envie de lui poser les questions que je suis en train de lui poser. Et donc, est-ce que, selon Thibaut, tout ça fait du bien à la culture foot ?
Alors, il y a un mouvement qui est assez paradoxal et un peu contre-culturel à l'égard de ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. On est tous plus ou moins d'accord pour dire que les réseaux sociaux n'ont pas élevé le niveau du débat démocratique. Mais dans le football, c'est plutôt le contraire en réalité. Alors, il subsiste toujours des éléments un peu d'effets de foule, d'effets de masse. Ça existe toujours. Mais les réseaux sociaux ont permis une mise en commun assez exceptionnelle de connaissances et de culture. Ah ouais. Tu as maintenant des comptes spécialisés dans l'histoire du football, dans la géopolitique. Tu as des émissions sur YouTube, des youtubeurs qui eux-mêmes s'improvisent journalistes d'investigation, notamment dans un scandale récent, la fédération haïtienne a été révélée par un youtubeur.
Bonjour à tous et bienvenue. Je vais essayer de ne pas m'énerver dans cette vidéo, mais je ne garantis rien. Parce que j'en ai marre des escrocs. Mais notamment les escrocs à la tête des fédérations, j'en peux plus. Mais rares ont été les cas qui m'énervent autant qu'Haïti. C'est peut-être parce que le pays est l'un des plus pauvres au monde et que tu as des gens qui ont bénéficié d'une ascension sociale grâce au football et grâce à la fédération de football, qui sont aujourd'hui à sa tête et qui pillent allègrement le pays tout en se faisant passer pour des victimes en disant « Putain, on est dans un pays pauvre, on n'a pas d'argent, etc. » Et avoir l'outrecuidance de regarder des millions d'Haïtiens Alors ils disent non, on n'a pas beaucoup d'argent, faut nous encourager, c'est leur sport, etc. Alors que dans le même temps, ils spoilent des donations et des subventions pour leur enrichissement personnel. Mais non, je peux pas. Et je sais que beaucoup en Haïti aimeraient parler de cette situation-là, mais ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays justement très compliqué au niveau économique. Donc certains, par exemple, ont un boulot de journaliste ou que sais-je, s'ils commencent à se rebeller vis-à-vis de la fédération et donc du pouvoir politique, ils ont peur de perdre leur boulot, et s'ils perdent leur boulot, forcément ça va impacter leur famille. Il y a des joueurs, c'est pareil, il y a plein de gens qui sont terrorisés. Donc ça fait un moment que je travaille le sujet, et j'avais déjà été alerté, et j'ai envie de leur dire que je serai leur voix, et d'ailleurs je fais cette vidéo pour ça.
Tu as énormément d'une génération, hein, en gros les millennials, hein, qui ont pris possession de la culture football et qui l'ont adapté un peu à leur culture à eux. Et c'est une culture très riche où tu as des gens extrêmement curieux et extrêmement compétents.
Ah, c'est vrai qu'il en existe plein de ces contenus proprement numériques qui parlent de foot de tout genre. Depuis le Club des 5 sur YouTube qui reprend des codes assez proches du plateau télé jusqu'à des podcasts beaucoup plus intimistes. Moi, j'avais beaucoup aimé Banquette, par exemple, qui s'est arrêté à l'été 2019. Et ce que ces contenus qui ne circulent donc que sur Internet ont en commun, eh ben, c'est d'être pointus.
Les socios, on va parler de cette victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 face à Nîmes. Voilà, on voit à l'affiche match, il y a eu un petit peu ce fait de jeu, un carton rouge pris par les joueurs nîmois qui a un petit peu débloqué la situation, mais c'était quand même un match à sens unique. Toutes les statistiques vont dans le sens de l'Olympique de Marseille, 0 tir cadré pour Nîmes, même si ça a mis du temps à se décanter, Nico.
Ça, c'était le Club des 5 du 4 décembre sur YouTube. 1h15 d'émission entièrement consacrée au débriefing d'un match entre Nîmes et Marseille. Alors là, j'avoue que même pour moi, c'est un peu pointu. Du coup, je me demande si cette hausse du niveau permise par Internet, hein, dont parle Thibaut, est-ce qu'elle n'a pas pour conséquence une hyperspécialisation ?
Il y a un phénomène qu'on pourrait qualifier d'archipélisation du football, un peu à l'image de ce que Fourquet avait fait avec la société française. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, chaque amateur est une île. Donc chacun va aller chercher sur son émission, son équipe, un domaine, le youtubeur qui l'intéresse, le match qui l'intéresse. Et on peut regarder maintenant, grâce au miracle de YouTube et de certains sites, énormément de matchs qu'on n'a jamais vus, des matchs de Pelé, des matchs de Maradona. Maradona est mort. En réalité, nous, en France, on l'a très peu vu. En réalité, une dizaine de matchs grand maximum. Donc, maintenant, les gamins, ils ont accès à tous les matchs de Maradona avec l'équipe d'Argentine. Alors, ils vont pas regarder les matchs en entier. Eux, ils vont regarder certaines actions, ils vont regarder certains morceaux, mais ils vont en entendre parler. Ils sont face à une profusion qu'ils arrivent à mettre à profit. Le risque, c'est que face à cette profusion d'images, l'imaginaire, lui, est un peu pris en défaut.
Intéressant ce que décrit Thibaut. Hein. La multiplication des niches, la constitution de cultures individuelles très fournies, mais aux dépens, peut-être, d'une culture plus collective. Un phénomène qu'on retrouve pas seulement dans le foot, hein, d'ailleurs c'est une caractéristique d'Internet, que de permettre des rassemblements de gens qui ont des goûts et des intérêts très très spécialisés. Bon, ça vaut aussi bien pour le sport que pour le cul, mais aussi, je sais pas, les fans d'estampes japonaises, de bagnoles ou de théories bizarres. Hein. Sur Internet, on s'aperçoit qu'on n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un pour s'intéresser à la même chose que moi, si rare soit-elle. Et ça, nécessairement, ça crée des archipels pour le meilleur et pour le pire. Mais Thibaut, il parle aussi de la profusion, la possibilité de voir plein de matchs et des matchs anciens qui, il y a 20 ans, étaient complètement inaccessibles. Et ça, je le constate chez moi avec mon fils de 10 ans qui est fan de foot et qui a une connaissance très très précise, par exemple, de la Coupe du Monde 98, alors qu'il n'était pas né, tout simplement parce qu'il en a vu plein d'extraits, parfois très longs. Mais pourquoi Thibaut dit que ça prend en défaut l'imaginaire, ça ?
C'est-à-dire que vous êtes face à un flux continu d'images dont il est très difficile de retenir certains événements ou certains faits. L'image est en train un peu de tuer l'imaginaire du football.
Je crois pas que je m'avancerais autant que Thibaut sur le fait que l'image tue l'imaginaire. Bon, néanmoins, je vois ce qu'il veut dire. Parce que dans ma vie de fan de foot, il y a un truc étrange que je dois confesser. Je n'ai jamais vu le match entre la France et l'Allemagne pendant la Coupe du Monde 1982 dont je parlais tout à l'heure. La fameuse demi-finale, si tragique, perdue au pénalty par les Français. J'avais 9 ans, j'étais en vacances chez un copain dont les parents ne nous avaient laissé regarder que la première mi-temps. Je suis allé me coucher, il y avait 1-1. Et tout ce qui s'est passé ensuite, hein, l'attentat de Schumacher contre Battiston, les buts de Trésor et Giresse, la remontée des Allemands, le pénalty raté de Didier Six, etc. Eh ben, je n'ai su que le lendemain. C'est un monsieur qui me l'a raconté, et ça je m'en souviens, mais très 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 bien. Les images, elles-mêmes, je ne les ai vues que bien plus tard, des jours, peut-être des semaines après. Et même si depuis, je les ai vues 1000 fois, ces images, eh ben, je crois qu'elles n'ont jamais complètement remplacé dans ma mémoire ce premier récit. Ce récit qui m'a été fait dans un jardin plein d'épines de pin et par un monsieur que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que ce que m'évoque ce match, c'est moins ce qui s'est passé réellement, ou ce qu'on a vu à la télé, que ce que j'ai imaginé quand on m'a raconté ce qui s'était passé. Et ce que j'ai sans doute rêvé ensuite, à partir de ces bribes de récits. Donc, oui, en fait, je crois que je vois bien ce que Thibaut veut dire. En même temps, est-ce que c'était mieux qu'aujourd'hui? Eh ben, ça, je sais pas. Mon fils, quand il a pas vu un match, par exemple, parce qu'il a dû se coucher avant la fin, eh ben, dès le lendemain matin, il en regarde un résumé sur Internet. Ben, c'est pas mal non plus. Et d'ailleurs, ça lui arrive de le regarder plusieurs fois, et je suis pas sûr que son imaginaire ne travaille pas aussi un peu dans tout ça. Mais bon, puisqu'on en est à évaluer ce que la fan ou le fan de foot perd et gagne dans cette modernité numérique, je me pose une autre question. Aujourd'hui, quand on regarde un match de foot à la télé, bon, bien souvent, on le vit aussi en parallèle hein, dans les réseaux. On regarde les commentaires en direct sur Twitter, on va fouiller les fiches Wikipédia des joueurs, moi je fais ça énormément, ou alors on WhatsApp avec un copain qui est fan de l'équipe adverse pour le chambrer, etc. Bon, bref, on participe à une sorte de soirée foot, mais tout seul face à son écran, sans l'inconvénient des soirées foot, donc c'est en fait une sorte de rêve, quoi. Et je me demande si cette communion qu'on vit dans les réseaux, mais dans le confort de chez soi, elle ne pourrait pas à terme concurrencer l'autre communion, mais qui nécessite d'aller au stade, donc de se déplacer, de se faire fouiller à l'entrée, d'avoir mal au cul, d'avoir froid l'hiver, de devoir rentrer en RER avec une foule, etc. Donc souvent, le match, il est plus drôle dans les réseaux, hein, parce que quand il est ennuyeux, par exemple, ben, on peut regarder autre chose.
Ça l'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas. Maintenant, tu as les stades connectés. Tu peux être sur les réseaux et en même temps être dans le stade. C'est-à-dire que t'as plus véritablement de différence entre les deux. Moi, je pense que la période de confinement et les événements récents vont en réalité doper les audiences dans les stades. C'est-à-dire qu'au moment où ça va reprendre, les gens ils vont se rendre compte que, bah oui, parce que je crois que la première chose que t'as envie de faire quand t'as passé un an à regarder des matchs où il n'y avait pas un seul public, c'est de retourner dans un stade, justement pour aller manger de la saucisse, t'asseoir sur un truc où t'as mal et voir du monde quoi, et voir du monde, et on se rend compte que le football sans la présence du public, c'est quelque chose qui ressemble à autre chose quoi. Et très souvent dans les périodes de crise, en réalité, les fréquentations dans les stades et dans les théâtres augmentent. C'est assez caractéristique en Espagne entre 2008 et 2014, qui correspondent à la période la plus dure de la crise économique et crise financière à l'époque. Le taux de fréquentation des stades a augmenté et il s'est mis à redescendre à l'instant où l'Espagne allait beaucoup mieux, c'était à partir de 2014.
Ok, on verra. Bon, peut-être qu'on aura envie de faire autre chose avant d'aller au stade, mais peut-être qu'on se précipitera aussi dans les stades. Alors, si je comprends bien, si je comprends Thibaut, et pour répondre à la question que je me posais au tout début, le foot vit une crise, ok, accrue par le confinement, ok, mais c'est pas tellement la techno qui est en cause. Comme si intrinsèquement, il y avait dans le foot quelque chose qui résistait à la technique. Alors, Thibaut disait le pied tout à l'heure. Bon, mais après tout, si on y réfléchit 5 minutes, c'est assez logique que ce sport, qui s'est distingué des autres en se consacrant si étrangement au pied et en consacrant si étrangement le pied contre la main, résiste à la digitalisation, hein, parce que dans digital, il y a le chiffre, mais il y a aussi le doigt. En fait, c'est pied contre main, c'est toujours la même histoire qui est rejouée depuis les débuts du foot. Merci beaucoup à Thibaut Leplat, La magie du football, son dernier livre est paru chez Marabout. Merci beaucoup aussi au podcasteur de Sur la ligne pour la mise en relation. C'était le dernier épisode de cette première saison du Code à changer. Alors si tout va bien, il y aura une deuxième saison. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés, qui aiment, qui partagent, qui écoutent, qui parlent du Code à changer. Merci aussi aux formidables réalisatrices des podcasts de France Inter, Anne-Sophie Ladonne, Fanny Bouillon, Hélène Biot, Céline Hilla. Merci à Stéphane Distinguin et Faber Novel de les rendre possibles. À la technique, Julien Dumont, au mixage Adèle Cagard, réalisation Hélène Bizio. C'était le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.